Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le retour des DC Podcasters Review où on vous parlera de Final Crisis tome 1, le second tome de Batman par Enrico Marini et des tie-in de Prelude for the Wedding qui viendront à Batman 50 et 51. Je suis Watchful et vous écoutez les DC Podcasters Review numéro 32. La rédactrice en chef Harley.
Bonsoir.
Le newser Sledgy.
Salut.
Le revenant Zeppli.
Salut.
Et l'invité que nous accueillons encore, qu'on accueille une fois de plus, Nightwing.
Salut à tous.
Est-ce qu'on passe par la question ça va bien ou on commence tout de suite avec les comics VF?
On peut parler de comics, ça ira plus vite.
Bah non, okay, on peut dire que ça va bien aussi.
Ouais, ça va, tranquille. Il fait beau.
Et on commence par les comics VF. Comics VF, on va commencer par le kiosque, récit complet Justice League numéro 6, je crois, qui est consacré à New Superman par Gen Luen Yang et dessiné par Victor Bogdanovic.
C'est pas Gen Luen Yang?
Si, mais j'arrive pas à le prononcer. Donc on va dire Gen Luen Yang, dessiné par Victor Bogdanovic et Richard Friend, qui l'a lu et qui voulait en parler?
Pardon, je l'ai lu. Est-ce que je suis le seul à avoir lu New Superman?
Ouais, je pense,
ouais. Ouais, tu penses. Bon, alors, New Superman, alors, de quoi ça parle? Alors, ça parle déjà, en fait, d'un Superman chinois. Donc, il faut savoir que c'est, voilà, c'est un vrai New Superman, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui serait encore un énième récit consacré au Superman Clark Kent qu'on connaît. Ni à une version alternative de celui-ci. C'est un Superman chinois qui coexiste dans l'univers en fait actuel avec le Superman qu'on connaît. Il se trouve que son origine elle est liée en fait à la disparition du Superman des New 52. Vous découvrirez ça dans le tome. Et que on découvre aussi que ce Superman en fait il est en Chine. Donc dans une Chine où il y a d'autres super-héros en fait et aussi d'autres super-vilains. Donc ça permet de montrer que l'univers DC n'est pas consacré uniquement à un univers qui serait celui simplement des États-Unis, comme on peut le voir dans la plupart des comics. Et ça donne une vision un peu plus vaste. Alors, il faut noter que l'auteur, en fait, c'est lui-même un auteur d'origine chinoise qui, du coup, donne vraiment une vision de l'Asie qui est réaliste, qui n'est pas celle qu'on pourrait voir dans certains comics qui ferait quelque chose d'assez caricatural. Et donc, pour ce premier arc qui est proposé ici dans la collection Urban, hors série Justice League, bah c'est plutôt pas mal, d'autant que pour 5,90 vous avez donc l'équivalent de 6 tomes, donc c'est l'équivalent de 6 numéros,
ouais, de 6 numéros.
Voilà, donc ça donne en fait l'équivalent du TPB VO du premier de New Superman. Franchement, il faut tenter. Alors au niveau des dessins, le dessin de Bogdanovic, bon bah c'est pas incroyable. Faut dire ce qui est, c'est à peu près ce que t'attends d'un comic classique de chez nous, mais c'est pas du haut de gamme.
Ouais, mais il a un style particulier quand même, Bogdanovic, et j'aime
ouais,
plutôt bien ce qu'il fait.
C'est cartoony. Voilà.
Ouais, c'est
cartoony, ça rappelle un peu de ce que tu pouvais avoir comme dessin dans les débuts des Ultimate Marvel, par exemple. Tu vois, c'est dans ce style-là, c'est le style un peu funky, un peu sympa, et ça correspond au ton du récit qui est pas du tout en fait quelque chose de violent et de grim and gritty, c'est plutôt c'est plutôt lumineux et donc c'est ce qu'on attend aussi d'un Superman. Donc c'est à découvrir. C'est un peu différent de ce qu'on est habitué de voir chez DC et donc pourquoi pas. Surtout pour le prix qui est demandé, 5,90. Si c'était un tome à 15 €, on pourrait y réfléchir, mais là, voilà, ça se tente. Dépêchez-vous parce que c'est le numéro de mai-juin. Il reste plus beaucoup de jours avant qu'il disparaisse des kiosques.
Par contre, du coup, est-ce que tu l'as lu en recueil?
Alors, je l'ai lu en recueil.
Alors, je voulais savoir, parce que j'avais lu en single, est-ce que tu retrouves les effets de lenteur dans les singles, parce que c'était vachement long la mise en place du Superman?
Non, non, c'est encore une fois, c'est assez décompressé, mais tu sens que c'est fait pour être lu, en fait, justement en recueil. Là, les six numéros qui constituent le premier arc s'enchaînent bien. C'est vrai que c'est verbeux, par contre, ça parle beaucoup. Mais c'est peut-être aussi le style de l'auteur. Je pense que ça se tente. Voilà, je te dis, c'est pas du grand comic book. C'est pas du Morrison ou du Geoff Johns de la bonne période, mais c'est intéressant. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, pourquoi pas? C'est vrai que c'est un peu lent. c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant non plus à la lecture. Tu seras pas, tu vois, tu seras pas non plus directement chopé par le truc, mais
c'est l'écriture de Superman.
Ouais, c'est une bonne vision de Superman, tu vois, et c'est pas. Puis c'est un récit sur la Chine aussi. Je pense que c'est ça donne une autre image de celle que tu peux avoir en fait en tant qu'occidental en fait de la Chine.
Et je pense qu'en fait c'est un des plus gros points forts du récit. Il y a personne d'autre qui l'avait lu ni même en VO qui pourrait avoir un avis différent de celui de Zeppeli.
Je l'avais lu avec pareil que toi en single. C'est vrai que le début est assez assez frais, assez original, mais je trouve que ça se perd assez vite dans.
Ah oui, mais là c'est que le premier arc en fait. Donc ouais. C'est vrai que après c'est vrai que ça devient un peu plus classique et tu retrouves un enchaînement de situations qui est comics de super-héros 101 quoi.
Mais là, ça devient très bateau quoi. Mais c'est vrai que le début à la limite pour la découverte c'est plutôt sympa et puis c'est vrai que le côté chinois change un peu.
C'est cool d'avoir en fait des nouveaux personnages aussi, tu vois, ça te montre un peu de la richesse d'univers DC que t'avais pas eu depuis longtemps, parce que c'est vrai que depuis New 52, ils avaient réduit un peu le nombre de super-héros, donc tu vois... Ouais, ouais. Bon, voilà, je dirais que c'est pas incroyable, mais c'est à lire quand même, surtout pour, voilà, dans ce contexte, qui est celui du magazine Urban.
Le bon côté, voilà, c'est que ça coûte pas cher, quoi. C'est que c'est imbattable comme prix pour 6 numéros,
ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils continuent à faire des récits complets comme ça régulièrement. Donc, ils vont te donner à lire des choses que tu n'aurais pas forcément été chercher par toi-même.
Oui, ils choisissent pertinemment les comics qui marchent pas vraiment bien, mais que au moins maintenant ils les publient, quoi, genre Green Lanterns, un truc comme ça.
Ouais, donc voilà, je pense que c'est un bon point à donner à Urban parce que bon, t'es à 5,90€ pour l'équivalent d'un TPB.
Propose qu'on suive en fait les tomes dont on veut parler dans une certaine progression du plus culte entre guillemets vers le plus on va dire qui laisse un avis assez voilà merci Harley qui donne un avis complètement différent qui divise beaucoup.
Le plus culte on commence par Final Crisis, j'ai entendu.
Gotham by Gaslight.
Ah Gotham by Gaslight. Ah.
De Brian Augustine et dessiné par Mike Mignola quand même. Est-ce que quelqu'un veut le présenter?
Bah, okay. Harley.
Ouais, ouais, c'est Batman versus Jack l'Éventreur.
Ok, d'accord.
Merci.
Ouais, non, voilà, c'est
pour toi, voilà.
C'est une épopée steampunk, c'est beau, c'est intelligent comme récit, franchement. Et puis l'édition avec le petit DVD du film animé avec, je trouve ça cool, quoi. Pour le prix, je trouve ça cool.
Le film animé qui, lui, n'est pas spécialement beau et pas spécialement intelligent non plus.
Ouais, ouais. C'est une adaptation un peu large.
Ouais, c'est une adaptation un peu ratée. Ils ont voulu faire un peu plus super-héroïque, en fait. Ouais. Alors que là où l'histoire, c'est du polar, en fait. C'est du polar
ouais,
noir.
C'est hyper sombre, c'est très noir.
Mignola au dessin. Donc je pense que, ouais, ça divise.
Non, justement, c'était ça la...
Voilà.
Ça. Je suis parti, justement, de Gotham by Gaslight, parce que personne ne pourrait contredire... La beauté du récit, la beauté de la patte artistique de Mike Mignola qui a enfin, je sais pas s'il avait commencé par Gaslight ou s'il avait commencé par Cosmic Odyssey chez DC, je sais plus.
Mais je pense que Cosmic Odyssey
Gaslight c'était 89.
Avant... Ouais, Cosmic Odyssey c'est pas 85, un truc comme ça.
Je crois que Cosmic Odyssey c'est antérieur, c'est vers la Crisis, ça me semble.
Ouais, c'est ce qui me semble aussi. Donc ça donne une nouvelle vision du personnage de Batman dans un Londres. Victorien, un peu steampunk, mais tu retrouves pas
totalement
d'éléments. Non, mais dans le sens, tu retrouves pas d'éléments un peu scientifiques sur un peu l'approche science-fiction du steampunk.
Ah bah non, bah c'est pas le steampunk de merde de convention voilà. Cosplayer.
C'est vraiment victorien. De toute façon, ça se déroule en 1888, donc il y a tout qui est adapté dans le récit en fait.
Est un Batman humain qui a un côté beaucoup plus détective et qui a l'aspect monstre à travers l'image qu'il dégage, mais à travers ses compétences en tant qu'homme et en tant qu'athlète dans les rues de Londres. Qui l'a lu récemment ou qui a envie d'en parler?
Moi, je l'ai lu quand il y avait le, je l'ai relu quand il y avait le film qui était sorti. Et effectivement, le film déjà qui prend des chemins différents et pas forcément les bons, quoi. Mais alors c'est qui l'auteur déjà, rappelle-moi?
Brian Augustine.
Oui, Il arrive bien à fusionner l'univers de Batman et celui de Jack l'Éventreur. Bon, je ne peux pas en parler en détail parce que ça spoilerait un peu l'intrigue, quoi. Mais ça propose une bonne version de Jack l'Éventreur, une bonne théorie, mais qui reste en rapport avec Batman. C'est une bonne histoire de détective.
T'as la surprise.
Ouais.
Voilà, je trouve que ça marche vraiment. Tu pouvais pas vraiment te douter. Alors que je trouvais que le film, justement, il ratait ça. Pour le coup.
Ah bah donc, oui.
Là, puisque vous avez le combo, pour 1€, c'est ça. Regardez pas le DVD avant d'avoir lu le comic, quoi. Voilà.
Il vaut mieux faire l'inverse. Ou pas regarder le DVD, mais bon, c'est un peu con.
Le DVD il est offert. Il est offert, donc vous pouvez le regarder.
Ouais. À la limite, ce qu'il a de bien, le film, c'est qu'il explore un peu plus l'univers de Batman. Genre, il y a une sorte
ouais,
de
t'as des personnages, et... voilà, t'as d'autres super-héros en version victorienne, ils sont fait un petit kiff, mais...
Ouais. Il y a deux, trois... Le début, tu vois, était pas mal. Des chemins qu'il prenait différemment, qui étaient peut-être un peu plus prometteurs, mais bon, enfin, dans la fin, c'est...
Pris tout seul, il fonctionne, mais pris comme adaptation de Gotham by Gaslight, il est raté.
Ouais. C'est pas faux.
Et voilà, du coup, quand tu... Enfin, moi, je ne l'ai pas encore lu, malheureusement. J'ai fait l'inverse. J'ai regardé le film avant d'avoir lu le comics.
Aïe.
Et du coup, ouais, donc je pars avec un petit handicap, on va dire. Mais est-ce que tu peux conseiller ce comics à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics Batman avant ça? C'est un truc qu'on peut donner à n'importe qui.
Tu peux le donner à n'importe qui à partir du moment où il est un petit peu familier avec le concept de base de Batman, je veux dire à peu près tout le monde. Voilà.
Ouais, maintenant que... Oui.
Je dirais aussi qu'il a une idée du concept aussi d'un Batman alternatif, parce que si il va avoir les attentes du Batman qu'il a dans du Batman basique, vu qu'il n'aura pas lu de comics justement avec ses modes alternatifs, il va s'attendre à un Batman moderne avec Gotham, et là en fait Londres va remplacer Gotham, ce qui montre aussi un peu le rapport entre Londres Gotham et le rapport de Gotham avec une certaine époque. Mais il va retrouver peut-être l'image de Batman, le mode opératoire d'un Batman, mais un contexte très différent qui pourrait le repousser un petit peu par rapport à l'œuvre.
Ok.
Enfin, c'était juste un conseil comme ça, mais faut pas le prendre à la lettre non plus. Si on a fini, on va peut-être passer au gros coup de cœur de notre rédactrice en chef. Depuis longtemps, à mon avis. Final Crisis tome 1 qui regroupe un premier condensé de différentes mini-séries de Grant Morrison sous l'effigie des Seven Soldiers, les 7 soldats de la victoire en référence à une équipe du Silver Age chez DC Comics. Harley, présente-nous Seven Soldiers of Victory.
Je sais pas si je le présente ou si je laisse l'honneur à Zep, c'est quand même Morrison 5 étoiles, donc...
Ok, donc on laisse Zep présenter et ensuite tu présentes ton récit préféré.
Ouais, alors, bon, je vais commencer rapidement. Alors, il se trouve que, ici, on nous présente, en fait, donc les Seven Soldiers of Victory, qui est en fait un vieux groupe de super-héros, mais Morrison, il fait quelque chose d'assez violent, c'est qu'il se débarrasse, en fait, dès le départ de l'équipe de base, pour la remplacer par une autre équipe où il va chercher des personnages plus secondaires. Donc je vais pas tous les citer, mais dans le tas il y a quand même Zatanna, il y a Clarion, il y a le gardien, voilà. Donc et il nous propose en fait une histoire qui va mettre en place les bases d'une prochaine crise. Donc ici je faut pas trop raconter, parce que c'est vrai que c'est dangereux de spoiler pas mal, d'autant qu'on est parti pour deux tomes chez Urban. Et à travers en fait la progression de cette équipe, on va simplement assister à la naissance, mais juste à la progression d'une menace qui va mettre en cause tout l'univers d'ici. C'est du nouveau cosmique, on réutilise des personnages de Kirby et de toute la continuité. En fait, on sent que Morrison, encore une fois, il fait son spécialiste de la continuité d'ici et va chercher des personnages qui étaient au placard depuis des années, et il arrive à en faire des choses hyper intéressantes. Donc vraiment, c'est à conseiller. J'imagine que tout le monde est d'accord avec ça.
Oui, tout à fait. Surtout sur un point, c'est le fait qu'il développe des personnages secondaires. Et comme par exemple Clarion, lui donner une chance comme ça, Shining Knight, tout ça. C'est vraiment très bien qu'on ait ce récit-là. C'est surprenant et c'est bien écrit. Et dans le premier tome, on a l'impression que tout n'est pas vraiment lié. Mais en fait, si, c'est lié de manière très, très subtil et franchement c'est hyper cool à lire quoi.
Ouais, puis il faut noter qu'il s'est entouré quand même des dessinateurs qui sont pas des manches.
Dans le temps, bah, quand même... J.H. Williams 3.
Il y a Cameron Stewart.
Ouais, aussi. Ouais, voilà. C'était pour le gardien.
Ouais, c'est vrai.
Il y a Simone Bianchi aussi, non?
Ouais, ouais, oui, il y a voilà, Ryan Sook. Bon, que
et
des
puis il y a
mecs,
Clarion,
des,
c'est trop
des
bien.
Des pointures.
C'est marrant, c'est des... au final, c'est des comics que t'as pas envie de lire. Enfin, tu penses que t'as pas envie de les lire. Mais quand tu passes le pas, bah, au final, tu te rends compte que c'était hyper classe, quoi, et tu découvres des, tu t'attaches à des personnages que dont t'avais même pas idée à la base.
Bon, en ça, même temps, ça, les comics d'ici cette période-là, en fait, sont plus intéressants au niveau des personnages secondaires que des personnages importants. C'est-à-dire que, par exemple, t'as 52 qui est à peu près de la même époque et qui est, voilà, où c'est le même genre de truc. C'est-à-dire que les personnages dont t'as a priori rien à foutre, tu te rends compte que c'est des personnages qui sont bien plus intéressants que ce que t'imaginais à la base. C'est pas juste des mecs qui sont là pour faire le décor dans les gros events.
Ouais, mais
comme
parce qu'ils sont bien développés aussi. Puis
oui.
Tout, c'est Geoff Johns, hein.
Ouais, et aussi Morrison.
Ouais. Ouais.
Mais pour ce qui est des personnages secondaires de l'époque, ça, c'est un petit peu ce qui a fait défaut à DC, c'est qu'à force de trop bien développer ces personnages secondaires, c'est-à-dire les têtes d'affiche, c'était devenu Flash, Green Lantern et Batman, un petit peu avant 2010. Ce qui fait qu'avec les New 52, ils ont voulu remettre la Trinité d'origine en avant, ce que l'éditeur avait déjà tenté de faire avec l'événement Trinity qui avait été un petit peu un échec quand même.
Parce que c'était pas terrible.
Ah ouais, c'est sûr, c'était pas terrible.
Quand c'est mal écrit, forcément, t'arrives pas à grand chose.
Et donc, pour ce qui est de ces personnages secondaires-là, je sais, c'est vrai qu'ils sont assez peu, enfin, ils sont pas connus du tout. Je pense surtout à Guardian et à Shining Knight.
Il y a que Zatanna qui est connu, en fait, dans le tas.
Ouais, c'est pas fou.
Et encore plus pour son design qu'autre chose, en tout.
Ouais, et c'est pas là où Frankenstein a été créé,
c'est dans le tome 2.
Oui, merde, désolé. Mais c'est bien sa création.
Tu es en train de nous spoiler des trucs.
Non, mais ça, c'est pas du spoil, Frankenstein, tout le monde le sait, non?
Bon, bon. Après, au niveau de l'édition, c'est voilà, c'est du urban assez classique. On peut regretter, par contre, je crois qu'ils le vendent 35.
Ouais. Ouais.
Ouais, c'est peut-être un peu cher parce que quand tu vois que des fois ils nous proposent des pavés de 500 pages pour ce prix-là et qu'ils ont déjà fait, en fait, là il y a quand même 400 pages, mais ils ont déjà fait 28 sur des tomes similaires pour les events type Resist. Alors, c'est pas cher par rapport à la concurrence, mais ça reste un investissement pour celui qui l'a pas encore lu. D'autant que ça a conseillé, mais en même temps, il faut savoir que Final Crisis, c'est pas du tout accessible. Faut pas commencer par là.
Oui, voilà. Mais c'est ce que j'allais dire, en plus, c'est classé dans Final Crisis, et du coup, ça double tranchant, parce que les gens vont dire, ouais, Final Crisis, ils vont lire, ils vont dire, c'est des personnages que je connais pas, donc ils vont découvrir. Et il y en a d'autres qui vont dire, ah ouais, c'est Final Crisis, c'est le truc où on pige rien du début à la fin.
Non mais tu vois, au pire ils auraient pu faire un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Crisis on Infinite Earths, un truc genre
un compagnon.
Voilà, le compagnon qui avait pas vraiment grand-chose à voir, mais qui te présentait l'évolution du multivers, sa création, les rencontres,
ouais,
entre les terres parallèles.
Ouais, mais là c'est ce qu'il présente, c'est le prélude à Final Crisis.
En même temps, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que si tu veux essayer de comprendre un truc à Final Crisis qui est pas vraiment possible, il faut quand même que tu dises ça, parce que tu vas arriver un peu plus armé, en fait, face à un event qui est dense, qui est compliqué, qui est issu d'un mec qui pense qu'il parle avec les dieux et qui prend de la drogue pour essayer de rentrer en connexion avec les forces, je sais pas trop, octoniennes ou peu importe. Ouais, toutes. Voilà, y a un problème. Mais voilà, je pense que c'est toujours comme ça que Morrison, là, le début, en fait, il paraît compréhensible. Tu commences par des choses qui semblent normales, petit à petit, tu vas glisser, tu vois. Mais en même temps, ça reste intéressant. Moi, c'est mon auteur préféré, même si je comprends pas tout ce qu'il fait.
Et j'ai une bonne question sur l'édition Urban. C'est à chaque fois, c'est un numéro de chaque mini-série ou c'est tous les numéros de Clarion puis tous les numéros de Zatanna?
C'est chronologique.
Ouais.
Voilà, c'est classé en chronologique pour que tu puisses comprendre en fait l'histoire.
Donc, c'est vrai.
Un vrai travail éditorial en même temps.
C'est mini-série par mini-série, ça?
Non,
bah,
c'est... Enfin, si tu veux, tu peux avoir deux numéros d'une série, un de numéro d'une autre série. Je sais plus trop comment ils l'ont organisé, mais en fait, tout est éclaté et tout s'enchaîne d'ordre chronologique. C'est pas d'abord Clarion, après Zatanna. C'est tout est éclaté, en fait.
Un peu comme l'édition VO, quoi.
Ouais, mais là, il y a... Voilà, oui. Ça ressemble à l'édition VO. En même temps, je trouve que ils ont fait la même chose que ce qu'ils avaient fait pour quand ils avaient édité la crise précédente qu'ils avaient faite. C'était laquelle qu'ils avaient fait avant?
Infinite Crisis.
Ouais. Voilà. Ils font vraiment Ils ont fait ça de la façon la plus claire possible. Donc tu peux vraiment pas te. Voilà. Il y a pas de souci par rapport à ça. Et puis en plus, t'as un accompagnement éditorial. T'as quelques petites notes. Voilà.
Titre de comparaison, j'ai une question. Je sais pas si tu l'as connu, l'édition Panini, mais
je connais l'édition Panini. Ouais. Voilà.
Mais j'ai le souvenir que pour eux, quand ils l'avaient publié pour la première fois, ils avaient regroupé tous les numéros de chaque mini-série par mini-série. C'était pas ça.
Mais c'est Panini, honnêtement. Oui, ils avaient fait ça, il me semble. En même temps, Panini, voilà, il faut se rappeler que c'est des mecs qui font des albums d'autocollants de foot à la base. Donc finalement, quand ils éditaient des comic books, c'était fait un petit peu par-dessus la jambe. Et encore maintenant, c'est le cas pour Marvel aussi, quoi. Quand tu vois qu'ils sortent des anthologies où il n'y a aucun contenu éditorial et qu'ils te balancent des numéros comme ça en donnant juste la date et le nom du truc, c'est... Voilà. Donc, rien à voir. Si vous avez déjà l'édition de Panini et que vous n'avez pas forcément compris, ça peut même valoir le coup d'acheter celle-ci.
Ça pourrait rectifier le tir.
Ouais.
Et si on en a fini, on va passer à autre chose. Dark Prince Charming, tome 2, de Enrico Marini. Donc, je sais pas si Nightwing ou Sledgy a pu lire ce second volume.
Non, malheureusement, non.
Ok, Sledgy non plus. Oui,
si,
okay.
Si. Bah oui, bien sûr.
Ah, mais moi, j'ai pas encore eu le temps, donc c'est pour ça, tu vois, je peux comprendre les gens qui n'ont pas le temps. Ah,
moi, je l'ai lu il y a genre même pas une heure.
Non, moi, j'ai vu le Joker sur la couverture, j'ai dit banco. Oui, donc c'est donc le deuxième tome du graphic novel, enfin BD franco-belge.
Ah, c'est une franco-belge.
Ouais. Oui, au niveau du format, de toute façon. Ouais. Donc voilà, c'est Enrico Marini qui écrit et qui dessine une histoire sur Batman et le Joker, un truc un peu gritty comme ça, assez sympa.
Ah, c'est vite dit, c'est très vite dit pour le gritty.
Oui, non, mais tu vois, le thème est quand même, c'est pas Batman à la campagne qui tape sur des méchants.
En même temps,
c'est
juste pas vraiment Batman à la campagne, c'est pas terrible quand même.
Il y a All Star Batman qui est Batman à la campagne dans un
J'allais
train.
J'allais dire ça.
C'est vrai. C'est vrai. Joué Batman dans l'espace et tout, mais à la campagne, pas trop, quoi.
Ouais, mais là, c'est un bon comics, contrairement à All-Star Batman. Et parce que, alors, c'est très, très simple dans l'histoire, mais...
Le scénario, il n'est pas très fouillé.
Bah oui, voilà, mais c'est très, très bien raconté, quand même, et c'est très beau. Voilà, les dialogues sont assez sympas et tu suis l'histoire vraiment d'une. Enfin, déjà c'est assez court, c'est quoi, c'est 60 pages. Mais
il y a deux tomes de 60 pages.
Ouais, voilà, mais c'est très très beau, c'est très bien mis en scène et l'histoire se lit vraiment bien. Moi, en tout cas, j'étais bien à fond dedans. J'ai bien aimé la façon dont il écrit le Joker, la partie Batman avec son sorte de coup d'un soir du passé là, enfin ça va peut-être pas plaire à tout le monde quoi, mais moi c'est surtout au niveau du Joker de Harley et puis même du petit nain qui est avec eux qui m'a rappelé
Archie.
Gaggy, ouais, qui m'a rappelé Gaggy, le voilà, si des gens se rappellent de Gaggy, à jamais dans mon cœur. Voilà.
Ouais, je trouve que c'était sympa aussi, mais en même temps le scénario je trouve très très simple. Avec un twist que tu vois venir assez à 1000 km, c'est certain. Le problème principal pour moi, c'est qu'en fait, même si c'est très beau, je trouvais que les scènes d'action, elles manquaient de punch, mais violemment en fait. Tu sens que les scènes d'action de franco-belge, ça ressemble pas du tout à une scène d'action de comics. Et là, tu vois un Batman qui est en train de se battre contre des mecs, mais t'as pas l'impact. T'es là, tu vois pas en fait ce que t'as l'habitude de voir. T'as pas la violence que t'es censé avoir dans ce type de récit. Franchement, reprenez un peu les pages de combat, vous allez voir, on se fait chier.
Ouais, mais c'est ça qui est bien aussi, quoi. Ça apporte un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Le
tome 2, il essaie d'avoir sa grosse phase de combat, elle est ratée. Tu vois? Pour moi, c'est... Voilà, c'est toute la fin, enfin, le dernier acte, en mode, allez, Batman contre les sbires du Joker, bon, bah, putain, t'es sur ta fin. Voilà,
non, non, ça m'a fait penser au jeu Arkham, où vraiment c'est très lent et très lourd. Et du coup, ça m'a pas choqué, j'ai pas eu cette image de.
En même temps,
il manque l'impact ou quoi.
C'est lent et c'est lourd, mais t'as de l'impact. Là, tu ne l'as pas. Je trouve que même la façon dont il se dessine, par exemple, Batman qui saute et qui met un coup de pied sauté, tu fais waouh. On sent qu'il n'est pas habitué à ça, en fait. C'est un mec qui est habitué à dessiner des comics de cap et d'épée, des combats à l'arme blanche, tu vois. Et dès qu'il sort des sentiers battus, tu sens qu'il est un peu en galère. Alors que sur les phases de dialogue classiques, sur les pauses qu'il peut donner à ses personnages dans des phases, on va dire, plus traditionnelles, ça peut être magnifique. Même ses courses poursuites, je trouve vraiment bien. Mais un peu un petit bémol sur le combat. Maintenant...
Comme tu le disais, c'est une BD franco-belge, c'est pas un comics, il a pas ce travail tout le temps de faire des pauses hyper dynamiques comme l'ont les Américains quand ils dessinent des comics, quoi.
C'est ça. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt beau. Le design, il est intéressant. Vraiment, le design des personnages, je trouve vraiment Joker, Harley Quinn, tout ça, c'est.
Joker à la fin, là. En mode Johnny Depp.
Ah, la dernière page,
elle est magnifique.
Voilà. Non mais c'est, voilà, il faut l'avoir.
Non, puis même la composition. Enfin moi, pour le Joker, il y a deux scènes qui m'a marqué. C'est celle dans le bar où ouais. on peut le dire, il est travesti.
Ah oui.
Il est absolument magnifique. Et celle où il se prend pour Jane Kelly avec Chanson sous la pluie version Joker.
Ouais.
J'ai adoré ces deux scènes.
Ouais, c'est pur Joker quoi.
Ces pages du Joker sont meilleures que les pages de Batman.
Joker est peut-être mieux développé que Batman, puisque Batman il y a un peu de Batman, un peu de Bruce Wayne. Tu vois, on n'a pas vraiment l'ensemble qu'on a d'habitude. Alors que le Joker, lui, il est entier du début à la fin, quoi.
En même temps, tu sens que le Batman, il part du principe de l'archétype, voilà, le playboy en Bruce Wayne, et puis le Batman un peu sombre et violent, et puis c'est tout, il s'arrête là. C'est le Joker qui est au centre du récit.
Mais il n'a pas une trop belle image, en plus. Enfin, Batman m'a limite un peu saoulé, il parle mal à Alfred tout le temps... Je sais pas si ça vous a fait ça aussi, mais à chaque fois qu'Alfred dit quelque chose, Batman il le rembarre comme une sorte de gamin qui rembarre sa mère parce qu'elle s'occupe trop de lui, quoi. C'était un peu énervant parfois. Et puis en plus, bon bah il y a tout le côté sale avec tout ce qui est autour d'intrigue sur lui, quoi.
Ouais, mais après c'est aussi fait exprès puisque c'est une erreur entre guillemets de jeunesse qui lui revient à la gueule et du coup le type il en peut plus. Mais je pense que c'est peut-être une volonté aussi de le mettre à part juste pour donner plus d'impact au Joker, tu vois, pour le mettre un peu plus à défaut par rapport au lecteur.
De toute façon, tu comprends clairement que une fois que t'as tout fini, tu comprends que c'est un récit qui parlait plus du Joker que de Batman.
Ouais, ouais. La première partie c'est vraiment Batman et la deuxième partie c'est vraiment le Joker.
Ouais, c'est ça.
Et ça fonctionne bien.
Et puis la petite, elle fonctionne super bien. Elle est trop bien, la petite.
Ouais, tout fonctionne.
Et il y a même une toute petite scène entre Catwoman et Harley Quinn. Et je me suis dit, j'aimerais bien le voir travailler sur d'autres interactions entre ces personnages.
Moi, j'ai bien aimé surtout comment il a développé en fait, la relation Joker-Harley Quinn. Je trouve que pour le coup, en fait, il est resté sur la relation classique. Mais en même temps, il a réussi à pas faire non plus une Harley qui serait trop dépendante.
Non, elle est moderne, leur relation.
Ouais, donc.
Et c'est un truc qu'ils auraient dû faire dans Suicide Squad. C'est un Joker comme ça qu'ils auraient dû faire.
Bah ouais, ils sont passés à côté de ça.
Surtout avec Jared Leto.
On revient pas sur ça. On revient pas sur le film.
Non, mais imagine.
On est déjà revenu la dernière fois là-dessus.
Non.
Imagine,
non.
Maintenant, arrête. Je peux en parler parce qu'on est en review. La scène dans le bar où il est travesti et joué par Jared Leto, ça aurait pu être une scène absolument magnifique. Mais
ouais, t'inquiète pas,
t'auras
l'occasion de revoir Jared Leto.
Oui, mais pas magnifique. Pas magnifique.
Bon, je pense que à partir du moment où on dévie sur le film Suicide Squad, ça veut dire qu'on a fini de parler d'un truc.
C'est le point de vue, mais...
Voilà, ça veut dire qu'il faut qu'on passe à la chose suivante.
Non, et juste un détail dans Batman Dark Prince Charming, c'est que je vais très loin, mais je trouve qu'il y a un certain parallèle entre Alex Delarge et le Joker. Je sais pas si c'est fait exprès, mais il a un côté tout mélomane, tout ça, l'ultra-violence, il est très, très sournois. Mais le fait qu'il cite Beethoven alors qu'il aurait pu citer n'importe quel autre compositeur et vraiment de talent, je me demande si c'est pas un petit peu fait exprès.
Non, mais il cite Rachmaninoff en fait.
Oui, mais il y a Beethoven aussi.
Oui, et puis même la scène de Gene Kelly, ça fait
ça fait aussi avec sa canne, quoi.
Ouais. C'est vrai que finalement, c'est un personnage qui a inspiré le Joker moderne hein, dans plusieurs trucs et dans ce comics-là, enfin dans cette BD-là, effectivement, c'est vrai que il y a un sacré parallèle à faire.
C'est bon, tu peux enchaîner, on a fini.
Après, non, notez quand même que juste que c'est un format franco-belge, donc du coup, c'est vrai que les pages elles sont présentées dans un format assez grand et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça en fait en tant que lecteur de comics pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir des albums de ce type là, donc ça vaut le coup, d'autant que l'intégrale ça va vous coûter 30€ quoi, donc c'est faisable, c'est pas un
Bref,
investissement incroyable.
Bref, c'est bien, achetez.
Allez-y.
Et c'est la fin du coup, le tome 2 c'est le dernier.
Ouais, c'est contenu en deux tomes, donc voilà, c'est un projet intéressant trouvé de sortir Batman des comic books pour en faire une version franco-belge. Et ça donne un résultat bien plus intéressant que celui qui a été de le mettre en manga. Voilà.
Enfin, à voir si justement ils peuvent pas déboucher sur autre chose en manga, parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, sinon on va peut-être pas en parler tout de suite, on fera peut-être un autre podcast dédié à ce genre de pratique.
Batman et les mangas, il y a de quoi dire. Faudrait qu'on en fasse un hors série.
Je me dis que ça pourrait faire quelque chose de plutôt cool. On va terminer la VF avec le pire. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui partagent mon avis.
Peut-être le meilleur.
On va voir. Donc, Metal, tome 1, scénarisé par Scott Snyder, dessiné par Greg Capullo, entre autres, puis qu'il a aussi également les tie-in avec Stefan Sejic et je sais plus quel autre dessinateur. Je sais pas quoi. Harley, si t'en parles, je sais ce que ça va donner. Nightwing, qui n'a pas beaucoup parlé, j'imagine que t'as lu Metal.
Ouais, je l'ai lu. Pas un bon souvenir.
Ah, bon, bah en fait, ça va pas changer.
Non, mais enfin, j'avais utilisé cette formule dans un précédent podcast et c'est un comics qui fait beaucoup de bruit en fait quand tu le lis. Il est.
C'est du métal.
Ouais, mais c'est un beau bordel quoi. C'est et puis visuellement là le tome 1 avec les trois premiers numéros là d'introduction, c'est mon dieu quoi. Voilà. C'est violent. Je passe d'une page de Romita Junior. Qui faisait ça pendant sa pause déj et à une autre page de Jim Lee qui faisait ça lui ça lui a dû lui prendre un week-end après.
Non et tu sais mais... le mec il voyait la planche, il s'était entre deux papiers à signer et il a fait une signature, c'était non, de la même chose quoi.
Tu sens que c'est des comics qui ont été faits en écoutant des albums de Pantera et en buvant des caisses de bière quoi.
Dit comme ça a l'air bien.
Même ah, oui. Comme ça.
Mais le problème c'est qu'ils ont dessiné après avoir fini tous les packs de bière.
Non, mais c'était, franchement, c'était, on nous avait promis un truc, au départ, assez, plutôt, simple. Un titre qui ne perturberait aucun autre titre, qui se contiendrait, une petite série tranquille. Putain. Et au final, on s'est retrouvé avec, 3 numéros d'introduction.
12 millions de tie-in.
17 tie-in, 8 numéros spéciaux. C'est, là, non, on revient
sur le. Qui fait un putain de bois au multivers d'ici quoi. Où les mecs, ça commence par le fait que t'as genre l'espèce de Hawk Girl là qui retourne la carte du multivers et qui a un fond noir derrière. Elle dit voilà, ça c'est le Dark Multiverse quoi. Voilà, ça commence
mais
de là.
C'est du génie ça.
Et t'es genre ok, merci, super, au revoir. Mais tu continues quand même, tu te dis bon allez vas-y je vais lire. Et puis ça s'enfonce, à chaque fois ça s'enfonce. Et puis il y a des Batman de tout, c'est genre... Alors il y a le méchant Batman qui est en fait Wonder Woman, un méchant Batman qui est en fait le Joker, un méchant Batman qui est en fait Flash, ça va dans tous les coins.
Et on parle du méchant Batman Aquaman, Aquaman.
Putain, mais méchant Batman Aquaman qui est en fait une femme, c'est ça?
C'est le pire pour moi.
Putain, non mais ils sont tous nuls en même temps, franchement. Même le Batman Joker là qui aurait pu être bleu... Peut-être le plus intelligent du tas, ou peut-être le plus intéressant. Même pas, c'est juste un truc de pauvre fan à la con de Clive Barker qui s'est dit « Vas-y, je vais faire mon truc un peu à la Hellraiser, mais un peu Batman. » Et puis en fait, on s'en fout, on le développe pas, on le met comme ça juste pour faire des figurines, quoi. Non. Même moi, je dis ça, imaginez.
Ouais, c'est ce que je me suis dit.
Oui, mais là, je suis pas d'accord.
Mais t'as acheté la figurine quand même.
Non, pas encore.
Pas encore. Harley, tu voulais contredire ?
Oui, non, enfin, il y a certains personnages comme justement le je sais plus son nom, The Drown.
Merci, yes. Non.
Non, The Drown. Celui Aquaman version femme, je le trouve au début assez nul et en fait, je le trouve assez intéressant parce qu'ils ont quand même repris certaines caractéristiques d'Aquaman qu'ils ont gardées et parce qu'il y a certains twists vers la fin qui sont intéressants. Le mashup avec le Joker, physiquement, je suis clairement amoureuse de ce personnage. Alors, il fait penser, j'ai déjà dit, à la création de la bouche de Sauron, à un artiste japonais aussi, j'ai perdu son nom, qui fait la même chose sur des cailloux. Mais c'est assez, ça fait penser à un des démons de Diablo 3 aussi. Et j'adore
cette histoire. C'est le hobbit de Hellraiser, c'est tout.
Mais le problème, c'est l'histoire. Le one-shot, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. J'ai trouvé pas si mauvais que ça, mais il est quand même mauvais. Et j'étais déçue, mais...
Il est moche, enfin...
Ah non, en fait, ça dépend des artistes que tu vas avoir dessus aussi. Parce qu'il y a vraiment des planches, c'était son arrivée. Si je me souviens bien, c'était pas celle qu'il y a dans le premier Dark Knight Metal. C'est dans Teen Titans 12. Si je me souviens bien, quand il casse le mur de... Je sais plus, c'est Bellerive Warcam.
Ah oui.
Quand il pète ce mur et qu'il est là avec ses quatre robins, il est absolument magnifique. Et il y a d'autres planches comme ça, il y a des couvertures qui sont complètement dingues. Et en fait, il est utilisé juste comme un pauvre débile qui exécute les ordres sans jamais rien comprendre et sans aucun impact. Et c'est dommage.
C'est faire une grosse entorse à la psychologie du Joker que de suivre les ordres d'un supérieur déjà.
Bon, puis attends, rappelez-moi qui est le scénariste principal déjà.
Attends, je regarde. Scott Snyder.
Mais quelle coïncidence!
Je vois pas qui c'est.
Voilà.
Mais pourquoi quelle coïncidence? J'attendais la suite en fait.
Non, mais après, il est pas tout seul. Enfin, il y en a qui auraient quand même pu remonter le niveau. Mais dans les one-shots, c'est de la merde.
Il est pas tout seul. Ça veut dire qu'il fallait plusieurs mecs pour écrire ça.
Genre, Joshua Williamson. Le type, il est hyper doué dans l'horreur. Il a fait Nightbeater, qui est absolument génial comme série. Tu te dis, c'est là où il peut se lâcher. C'est pas sur Flash, c'est vraiment là où il peut se lâcher. Mais il a fait de la merde.
Là, les autres, tu sens bien qu'ils sont utilisés comme dialoguistes. Tout le truc, c'est du Snyder. Lui, il a chapeauté l'event. Il a dit, les gars, on doit aller de ce point A à ce point B. Et vous me faites le dialogue, tu vois.
Non, mais Joshua Williamson, c'est un peu le scénariste qui va assister un mec pour son événement, mais qui va jamais vraiment vouloir s'imposer. Il va essayer de s'effacer justement pour laisser le crédit au scénariste principal. Par exemple, quand tu lis The Button, tu vois que il y a Tom King qui a fait ses numéros, il a laissé la trame et Joshua Williamson a tenté de faire à peu près du Tom King sans vraiment le copier parce qu'il sait qu'il a un style différent. Là, à mon avis, pour Metal, c'est exactement pareil. Il a pas voulu marcher sur les plates-bandes de Snyder, surtout vu le regard que portent les éditeurs sur les scénaristes.
Voilà, mais du coup, Metal, franchement, je trouve ça vraiment pas bon. Et en même temps, même en France, ils essaient de nous en faire grave la promo en faisant des trucs autour du Hellfest et tout, alors que franchement, les gars, si c'est ça, en fait, qui est le fer de lance de l'univers DC, on est mal barré, quoi.
En fait, je crois que comme vous avez dit, ce qui a beaucoup choqué, c'est que c'était vendu juste comme Snyder avait annoncé une mini-série sur laquelle il allait se faire plaisir. Finalement, c'est devenu un event qui a pris une ampleur pas possible. Et en plus de ça, ça a plus d'impact que Doomsday Clock, qui était censé être dans la continuité actuelle. Donc là, tu te poses des questions quand même.
Doomsday Clock, c'est bien. Et ça, franchement, c'est du comics de gros beauf, quoi. Vraiment, c'est genre de truc. Pour un délire, à la rigueur, si c'était un truc underground que personne n'allait voir, ok. Mais les mecs en font le fer de lance, c'est pas possible.
Et c'est dommage, hein. Parce qu'il reprend de bonnes idées de Morrison, en plus, du run de Morrison, en plus. Hein.
Ouais, mais il en fait n'importe quoi.
Mais il est massacre.
Ouais, c'est ça.
Et c'est vraiment dommage.
Ah ouais, ça m'énerve. Franchement, chaque numéro, franchement, je rageais quand je les ai lus. Je les ai lus en VO au départ. Franchement, la rage, quoi. J'avais la bave qui sortait, quoi. Franchement, j'en pouvais plus.
mais comme je disais tout à l'heure, les deux premiers numéros, ils résument parfaitement tout ce qui a été Metal, en fait. C'est un bordel. Et même la partie graphique, c'est pareil. Elle reflète exactement ce que ça raconte. Un gros bordel qui, au final, aura des conséquences, je sais pas si on peut dire importante sur l'univers d'ici, parce que franchement,
y a plus
aujourd'hui
de
on s'en fout. Ouais, mais bon.
c'est tout.
Tout ça pour ça, quoi.
Mais après, là où ça frappe encore plus, quand tu lis un single, il y avait toujours quelques petits jours entre ta lecture, donc même si les artistes étaient différents, ça passait. Là, quand tu l'as en TPB, tu le lis et c'est encore plus frappant parce que tu enchaînes numéro sur numéro. Et ça fait mal à la rétine, quoi. Au milieu de ça, t'as Stepancevitch, c'est dur à dire, qui livre un numéro absolument magnifique. Il y a Capullo,
ouais.
Il s'amuse à peu près bien, mais encore, il... voilà.
Bah, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Caboulot, il s'en sort plutôt bien.
Caboulot,
il a fait mieux,
truc.
Quand même.
Non, mais ce genre de truc, tu vois, il est un petit peu en automatique, parce que c'est son domaine, en fait.
Oui,
il,
mais
il
je
est
trouve
bon.
Qu'il a fait mieux.
Ouais, bien sûr, bah, sur Spawn, il était meilleur.
Voilà.
Et Reborn, voilà. C'était beaucoup plus beau que Metal.
Ouais.
Mais le truc, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a de bonnes idées, il y en a des mauvaises. Toi, tu t'enquilles toutes ces pages d'affilée, tu frôles l'overdose... Et t'as ces premiers numéros brouillons, d'un coup t'as un espèce de robot géant avec les membres de la Justice League.
Oh mon Dieu.
Après t'as une course-poursuite avec des dinosaures où ma fille de 2 ans criait « Batman, dinosaure, Batman, dinosaure !» Rien que dans ce phrase, rien que ça, il y a une tête qui colle
pas. Batman avec des dinosaures, ça vous rappelle Odyssée, tu vois, et ça c'est un traumatisme. Moi je suis un PTSD quand c'est comme ça.
Et c'est dommage parce qu'après il y a de bonnes idées, il y a les lignées, il y a même les Dark Knights en eux-mêmes, c'est une bonne idée, mais c'est très mal exécuté, quoi.
Moi, j'avais bien aimé le one shot sur The Merciless avec
oui,
Manapool.
Oui,
bah
parce que c'est l'un des plus humains, en fait.
Ouais.
C'est parce qu'il y a Manapool, tu vois. Voilà.
Non, et puis c'est parce que Bruce Yana.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Je voulais guider un peu le débat.
Non, je veux juste dire un truc.
Je pense que
je vais te couper l'arbre sous le pied, je pense. Ouais. Je trouve que l'édition VF est intelligente par rapport à l'organisation du récit, par contre. Parce qu'on a l'ordre chronologique. Alors qu'en VO, ils vont faire vraiment Dark Knight Metal partie 1 avec les numéros 1 à 3. Non, avec les deux préludes de plus numéro 1, 2 et après ils vont faire 3, 4, 5, 6, un truc comme ça. Et ils vont faire les tie-in à côté. Alors que pour une fois, les tie-in s'insèrent bien dans la mini-série. Mmh. Et ça, je trouve que c'est très bien de la part d'Urban de l'avoir fait comme ça.
Bah heureusement, et en plus j'ai envie de dire malheureusement je peux même pas vous déconseiller de l'acheter parce qu'en fait vu que ça impacte l'univers d'ici, si tu veux avoir une collection cohérente, t'es obligé d'avoir Metal en fait.
Et que donc, de toute façon tu vas l'acheter donc.
Ouais, il y en a ça. Qui vont aimer, il y en a qui vont aimer parce que c'est tellement gros que les gens ils vont aimer, ils vont se dire ouais, c'est Batman,
ouais,
c'est
mais
des
c'est
méchants
n'importe
Batman.
Quoi, c'est n'importe quoi, je veux dire si les gens... Si... Ce que je te dis, en fait, à cause de ce genre de trucs là, franchement, moi limite je préfère encore... J'aimerais bien pouvoir cacher aux gens que j'aime bien Batman quoi. Parce que si les gens ils vont voir ça, honnêtement, les gars qui vont aller au LFS, ils vont dire ah tiens, Metal, je vais lire. Après, ils vont se dire c'est ça Batman, tu vois. Et après, tu dis non, mais moi j'aime pas ça en fait. C'était une blague.
Je sais pas comment tu peux aimer, parce que même en faisant un truc de gros beauf, bien barbuck et tout, je trouve que c'est quand même raté parce qu'il arrive quand même pas à se retenir de faire des dialogues hyper pompeux, genre je suis un trop bon auteur.
Non, mais c'est Snyder.
Ouais, il y en a
mec,
des. Ouais, vas-y, pardon.
Ouais, non, le mec, en fait, il se prend pour Stephen King, quoi.
Mais parce qu'à la base, c'est ce qu'on n'arrêtait pas de lui dire. On lui dit, putain, t'es Stephen King des comics, puis enfin, il se connaît.
Oui, mais parce qu'il a été lancé par Stephen King, de toute façon, le tout premier numéro d'American Vampire.
Ouais, il est coécrit, ouais.
Il est coécrit par Stephen King, qui a eu un énorme coup de cœur lorsqu'il lui a laissé son scénario.
Et quand il écrit de l'horreur, il est bon, mais là, il a encore ses mimiques de scénario d'horreur. Mais il fout ça sur une histoire à la con, genre.
Ça me dépasse, en fait.
Metal, entre guillemets, ça colle pas du tout, quoi. Ça rend rien de bon, c'est dégueulasse. Et si vous voulez un truc bien con jusqu'au bout et bien dessiné, eh ben il faut lire All-Star Batman et Robin. Voilà. Ça, tu vois, c'est con et ça s'assume et c'est bien comme ça.
On parle pas mal par contre de All-Star Batman et Robin.
Je suis d'accord avec Zep. On en parle
c'est
pas mal.
Un chef-d'œuvre.
Je dis ça en bien, hein, parce que mais c'est. Tu vois,
mais c'est vrai que niveau Batman, c'est de la merde.
Ça c'est du.
Ouais,
ça,
mais
c'est
ce drôle.
Que devrait être Metal.
Au moins, c'était drôle, Batman.
Oui,
Metal,
mais
c'est juste rageant.
Voilà. En fait, le truc, c'est qu'il y en a plein qui disent ouais, mais c'est pas Batman, donc c'est nul, c'est de la merde. Et Batman Metal, ce sera pareil.
Mais moi, tu me dis Batman Metal, moi, je veux voir Batman qui baise sur un toit et qui gifle Robin. Pas
Batman
très,
qui
dit
Robin, allez, va dans la Batcave, mange des rats.
Ouais, voilà. Voilà. Goddamn Batman, et puis voilà.
C'est
ça,
beaucoup plus Metal que Metal lui.
Ah bah c'est vrai,
ça.
Bah
voilà, c'est carrément
ça.
Vrai.
Ça c'est Batman Metal, pour moi, c'est All-Star Batman et Robin. Le Batman Metal à la con, là, bah, c'est juste chiant, et ça essaye de se prendre pour Grant Morrison, et ça y arrive pas, quoi.
Ouais, en plus de ça, Zep, tu dis que ça a des conséquences, mais c'est pour ça que je tape pas tellement sur Batman Metal, c'est parce que je l'ai pas fini, parce que j'ai pas eu le courage,
ah ouais.
Et je me disais que de toute façon c'était trop long pour ce que c'était. Je me suis dit que de toute façon j'allais lire No Justice, et No Justice je l'ai fini, et ça c'était de la merde. Donc, et franchement je vois aucune conséquence.
C'est non mais oui, juste non, bah... tu lis The New Age of DC Heroes, et tu lis Batman The Signal, hein, ouais. Avec l'autre patate là.
Non mais ça, mais personne ne le lit.
Non mais ouais. Voilà, non mais bref, ouais, c'est mais... le truc, il y a marqué que ça vient des pages de métal, hormis un nouveau quartier à Gotham, il n'y a rien qui a changé.
Ouais.
Voilà. Mais tu sens quand même que c'est
censé être... Ah si, il y a des méchants de jour.
Une espèce de mini-crise quoi, tu vois, je veux dire, il y a des choses qui changent un peu. Je veux dire, c'est pas non plus, tu peux pas le passer sous le tapis en fait, malheureusement.
Non mais si.
Mais si, non, que si. Tu peux pas.
Non,
au niveau du développement des personnages, tu peux pas.
Ouais, voilà, je dirais pareil. Donc je dirais, en fait, faut le lire, malheureusement.
Après, il y a pas moyen de passer l'event et de, comme Urban sait bien le faire, faire des petits résumés en trois lignes. Je pense que tu résumes assez facilement
ouais,
ce qui s'est passé.
Ouais, c'est pas en même temps, t'es comme, franchement, limite, par curiosité malsaine, tu dois y aller.
Oui, il y a quand même, non, franchement, il y a des idées intéressantes qu'il a été repêché. Donc rien que pour ça, tu peux le lire. Et après, pour te réconforter, tu repars lire Grant Morrison présente Batman. C'est peut-être pour ça qu'ils ont sorti en intégrale, d'ailleurs.
Bon, ils ont sorti en intégrale parce que, je sais pas, il faut convertir les hérétiques qu'il aurait pas encore acheté, en fait.
Mais sinon, ouais. Il y a un truc qui est très positif, qui est ressorti de Batman Metal, c'est la soundtrack.
Ouais, la soundtrack, par contre,
la soundtrack est plutôt cool, et le morceau avec Moreno est super cool. J'ai encore écouté cet après-midi.
Ouais, pour moi, c'est le seul qui était vraiment bien. Après, ils visent tout le temps un genre différent et du coup, faut apprécier le
mais
genre en question. Quoi.
Du coup, ça, c'est un truc que j'aimerais faire si ça sortirait à temps. C'est faire le comparatif, écouter tous les morceaux puisqu'ils sont tous liés en général à un Dark Knight et lire les one-shots en même temps que d'écouter le morceau pour voir si vraiment ça apporte un truc ou pas. Ou...
Bah, c'est pas forcément un Dark Knight. Il y a peut-être aussi à un moment en particulier du comics, là, par exemple le dernier War Cry, c'est sur la scène avec
ouais.
Hulk Girl et Wonder Woman.
Oui, oui, oui. Mais tu vois, j'aimerais justement revivre ça pour voir ouais. Ce que ça peut donner, quoi.
Bah, moi qui aime bien écouter des musiques en circonstance de ce que je lis, effectivement, ça peut être intéressant, même si ça rendra
bien
pas,
meilleur,
pas
fait,
ça bien.
Tu vois.
Oui, oui.
Et le seul truc que je ne pardonnerai pas à Snyder, c'est American Vampire va arriver en 2018 et il a pondu Batman Metal.
Non,
il continue sur les suites de Batman Metal et on n'a toujours rien. Et là, il se lance dans encore un nouveau projet secret qui n'a
American
rien à voir.
American Vampire, c'est son seul truc vraiment bon. Et
oui,
c'est,
mais c'est pour ça qu'on l'attend.
C'est mis au placard depuis des années.
Mais même Witches, il a dit qu'il allait revenir, mais je crois que c'est un peu...
Ah, Witches, c'était bien aussi.
Bah, c'était
mais
bien.
C'était pas chez DC, c'était chez
non, c'était Image.
C'est Image, oui.
American Vampire, le nouveau Battle Chasers.
Et finalement, ils vont en faire un jeu, tu vois.
Ils vont faire une série.
Un jeu PS4, comme il a
fait
pour Battle
Games, tu
voilà.
sais.
C'est ça.
Bon, non, je pense mais surtout peut... qu'Albuquerque, il a fini de travailler sur l'adaptation de Gaiman, okay. Donc...
Non mais en fait là, si on est parti sur American Vampire, je sais qu'on peut te laisser une heure, mais c'est ça le
c'est
problème.
C'est plus chez Vertigo, tu vois. C'est, voilà, American Vampire. La conclusion, c'est achetez pas Metal, achetez American Vampire. Il y a
ah
déjà
bah,
8 tomes
ouais.
chez Urban.
Et plus vous avez le temps, de toute façon, le 9e, il sort dans 3 ans.
Voilà, donc ça va, donc vous avez le temps.
on va passer au comics VO. J'ai envie de dire, on a tellement digressé donc vers No Justice et tout ce bordel que je pense qu'on est dans les comics VO depuis un petit moment. On va commencer par les séries de one-shot, toujours dans Batman, de Prelude to the Wedding, qui est une série de one-shot. Si je ne dis pas de conneries, je crois qu'ils sont bien tous scénarisés par Tim Seeley.
Oui.
Ouais.
Ouais, donc là, j'ai bien fait mon boulot. Après, par contre, c'est des artistes différents. Donc, le concept, c'est tout con. C'est que t'as un personnage de la Bat Family contre un méchant de la Bat Family, et ils se battent l'un dans un one-shot, avec un léger rapport avec le mariage. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait commencer par présenter ça. La présentation, je pense qu'elle est vraiment...
bah oui,
peut se limiter à ça, quoi.
L'intérêt, c'est juste en fait de voir où en est chacun des membres importants de la Bat Family au moment de l'annonce du mariage de Batman, en gros, quoi. C'est genre, comment est-ce qu'il... Tu vois à peu près comment est-ce qu'il prend la chose, et puis en même temps, à côté de ça, t'as un combat personnage emblématique contre personnage emblématique. Voilà, c'est tout.
Je les trouve intéressants, ils sont pas obligatoires,
ouais, non,
c'est des préludes, donc si tu les as pas lus, c'est pas grave, quoi. Mais,
tu peux passer à côté, mais en même temps, ça apporte quelque chose.
Ouais, ouais. Parce que Tim Seeley, il joue sur des relations que Tom King a pas eu trop eu le temps d'explorer dans son run de Batman, dans le titre principal, quoi. Genre, moi celui que j'ai préféré pour l'instant, c'est le Damian. Bah oui. Parce que bah, ne serait-ce que pour les dernières pages, Damien Catwoman, c'est une relation qui est très peu explorée dans le comics, à part le passage avec Talia, dans je sais plus quel numéro. Et du coup, c'était intéressant de mettre ça un peu à plat, et pareil avec, enfin, c'était intéressant d'avoir Nightwing qui parle un peu avec Batman de son mariage. C'est des trucs qui sont importants et qu'il n'y a pas forcément le temps de faire dans Batman, quoi. Donc c'est cool.
Mais celui de Damian, il est vraiment cool parce que t'as vraiment une bonne lecture du personnage et en même temps des liens avec le run de Morrison.
Ah oui.
Oui.
Et voilà. Donc.
On y revient toujours.
Voilà.
Non, en fait, t'en as rien à foutre de Catwoman et de Damien. C'est juste parce que t'as Morrison dans le numéro qui fait que t'aimes bien.
Non, mais non, c'est
pas. Non, la fin est vraiment. Le discours est très intelligent à la fin.
Non, mais pour moi, ce numéro de Damien, il est cool. Enfin, mais non, je le trouve pas cool du tout. Je trouve. Enfin, tous ces numéros-là, je le trouve vraiment inutile. Et c'est vrai que cette dernière page a été vraiment bien parce que t'avais pas de dialogue, rien que l'image parlait. C'était super beau.
Bah, ils sont pas inutiles. Je dirais pas qu'ils sont inutiles, tu vois.
Je les trouve inutiles, mais en fait, intéressants par rapport à l'événement, selon l'attache que le lecteur a avec tel ou tel personnage. Ce qui fait que, pour moi, le meilleur numéro, à mes yeux, mais c'est complètement subjectif, hein, c'est le numéro de Red Hood.
Ah, t'aimes bien Red Hood?
Ouais, et il y a pas. Je sais que comment il te pour juge. Toi. Non, mais pour lui, Red Hood, c'est comme Kyle Rayner, tu vois. C'est pas un Green Lantern et Red Hood, c'est pas Robin.
Red Hood, quoi. Red Hood, le mec qui se prend des coups de crosse dans la gueule, quoi.
Ouais, mais tu vois, c'est métal. C'est métal, c'est pour ça que j'aime bien.
Non, Nightwing était bien.
Ouais, mais je suis d'accord aussi pour celui de Nightwing, même si Nightwing c'est différent. J'étais déçu parce que Hush, je le trouvais pas si bien utilisé que ça. Je le trouvais pas tellement pertinent. Dans l'opposition avec Nightwing ou même par rapport au mariage en fait.
Mais Nightwing, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que là, je comprends mieux. J'accroche pas spécialement avec le personnage de Nightwing et du coup, le one shot, je l'ai trouvé vide.
Ouais, bah, pourtant j'aime bien Nightwing.
Pourtant,
j'aime bien
Hush, mais.
Ouais, Hush c'était un prétexte là. Enfin.
Oui, il a rien à faire là en fait.
Ouais, voilà.
C'est un peu l'équivalent de Nightwing. C'est un peu. Voilà, c'est comme Batgirl et Riddler, ils ont mis les deux cerveaux ensemble. Enfin,
ça c'était le plus nul. C'était vraiment.
Je l'ai trouvé bien pour le côté de Riddler en fait.
Mais non, il était gênant ce Riddler là.
Moi j'aime pas ce Riddler. J'aime pas ce Riddler en fait depuis Snyder en fait. Ils en ont fait quelque chose de, tu vois, de espèce de Riddler malsain et puis beaucoup plus criminel que ne l'est le Riddler dans ma tête, tu vois. Je dirais bien plus méchant en fait. Là où le Riddler normal il est juste cinglé, mais celui-là il est pervers quoi.
Ouais, mais c'est ça qui me plaît avec celui-là. même dans l'écriture de Tom King, c'était ça qui me plaisait, c'est qu'il était. T'avais un concours de malsain et de sordide entre lui et le Joker, et je trouve
le
que là on
le
sent.
Entre le Riddler et le Joker dans le truc de le Tom King.
Non, ça c'est la version porno, ça.
Ça m'a pas lu.
C'est la version adulte.
Non, mais là, la façon dont il écrit, c'est pas Tom King, quoi. Hein. Il est un peu bidon. Les énigmes, elles sont. Enfin,
le problème des énigmes, c'est que la résolution, tu l'as pas, en fait. Elle va juste à la statue et elle a tout compris. Et toi, t'es là, tu mets. C'est quoi le rapport, en fait?
Toi, tu recoupes les morceaux, genre, ok. T'as l'impression que c'est les déductions à la Adam West.
C'est ça. Et la semaine prochaine, c'est Harley Quinn contre le Joker. Là, ça va être un grand moment, quoi.
Là, par contre, je suis preneur, quoi. Étrangement.
Moi,
j'espère. Je me dis, allez, faites un truc bien avec ça.
Je pense que si c'était Tom King, vu ce qu'il a fait là entre le Joker et Selina, je me serais attendu à un truc vraiment bien, tu vois, une relation bien développée. Mais Tim Seeley, je sais pas.
Bah, Tim Seeley, c'est pas un manche, hein.
Ah bah, carrément pas.
Ouais. Oui, non, mais c'est sûr. Et il a livré l'une de mes séries préférées avec Hack and Slash. Mais je sais pas. Ou c'est peut-être parce que... Harley, le Joker, je commence un peu à en avoir ma claque quand c'est nul.
Bah, oui, mais quand c'est nul, en même temps, merci Amanda Conner et puis Ginny Palmiotti de faire
ouais, merci
tous les mois.
Ginny d'être repassé derrière pour livrer un truc un peu mieux.
Ouais, non, mais sans déconner, franchement, voilà, franchement, je crois que j'aimais bien, en fait, le Joker et Harley Quinn, je les aimais bien avant. Tu vois?
Fuite en
mais
temps.
Mais genre,
il y a
longtemps, genre, il y a. Allez,
mais dans la série éponyme des années 2000.
Il y a 8 ans, je les aimais bien.
Je les aimais bien il y a 20 ans quand j'étais petit et que j'avais un dessin animé de Bruce Timm qui était pas encore totalement fou et puis
dans les séries Gotham City Sirens ou dans la série Harley Quinn des années 2000, c'était bien parce qu'on retrouve un peu comme dans Dark Prince Charming, elle est sous son charme mais en même temps un peu indépendante.
Ouais.
Mais elle a pas un pochiche dans la tête, quoi.
Il faut qu'elle soit aussi tarée, toi, dans Dark Prince Charming, elle est aussi tarée que lui.
Ouais.
Elle pète ses petites crises, et puis c'est lui, des fois, qui est un peu victime de ces crises. Quoi.
Ouais, puis c'est bien quand ils n'en font pas une espèce de Deadpool, en fait, d'Harley Quinn, quoi. Parce que franchement, merci.
Non, mais
quoi.
Là, le dernier numéro, il est affreux, hein.
Oh, il est horrible.
Ta professeur Pig, ça aurait pu être une histoire, mais vraiment hyper intéressante. Et en fait, elle le fait s'affronter avec l'autre espèce de faucheuse, et elle arrive au milieu avec sa grande batte et elle va taper tout le monde, quoi.
Regarde ce qu'ils font avec Professeur Pig. Regarde ce qu'ils font avec les personnages de Grant Morrison. Regarde.
On aurait dû appeler ce podcast le podcast Morrison.
Ouais, non, mais à partir du moment où il y a Zeppeli, je pense que les auditeurs, ils sont au courant.
De toute façon, c'est le seul auteur de chez DC, Grant Morrison. Hein. On est d'accord, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais, d'accord.
Il y avait pas Scott Snyder?
Non,
je suis paumé.
C'est la parodie.
Non, mais justement,
ça.
C'est bien qu'il soit pas là.
Ouais. On va passer à un autre. Je crois que ça va être un petit coup de gueule pour Zeppeli aussi, ça.
Tiens.
On va faire un petit backup sur l'ensemble de White Knight, puisque le numéro 8 est sorti il y a déjà un petit moment.
Ouais, en fait, c'est le podcast Joker.
Ouais, mais en fait, oui, c'est plutôt ça, le podcast Joker Harley Quinn, oui.
En même temps, il y a toujours le Joker, tu vois, chez DC, à chaque fois, les mecs, dès qu'ils veulent faire un événement, et en fait, les méchants, ce sera le Joker.
Bah, il y a toujours Batman.
C'est ça. Les mecs, ils ont que deux personnages. En même temps, c'est ceux qui vendent le plus, tu vois.
Ouais. Donc, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de représenter le concept de White Knight, un Elseworld qui va ouvrir le Dark Label, avec un Joker qui, entre guillemets, se soigne et devient Jacques Napier, le Chevalier Blanc de Gotham, pendant que Batman devient complètement fou par rapport à cette nouvelle.
Sans voir les tétés d'Harley Quinn, bien sûr.
Et on ne verra pas les tétons d'Harley
Quinn. Nous ne les verrons pas. Merci de la sexualisation des pubs. C'est génial. Continuons à faire des jouets sexuels.
Et puis Batman, tu vois, il devient lui un peu cinglé, mais en fait, moins cinglé que dans Dark Knight Returns, où il est présenté sous une lumière positive. Merci DC. Voilà.
Et donc, je sais pas qui a envie de commencer pour White Knight. Généralement, c'est Harley qui commence Knight parce que c'est Sean Murphy. Mais là, je sais pas pour un backup.
Non, c'est bon, je laisse ma place. De toute façon, j'ai déjà assez parlé de ça.
Tu veux un avis positif ou un avis négatif?
Non, mais je m'en fiche complètement. C'est vous qui voyez, on part dans un débat sur White Knight. Donc, vas-y, je te lance ce Sledgy.
Bon, allez. Alors, moi, White Knight, c'était un peu la montagne russe. Genre le premier numéro était très bien, ce qui a suivi était comment dire un peu mou, voire complètement inintéressant, et la fin surprenait vraiment et assumait un peu mieux toutes ses idées parce que du coup il est dans un Elseworld et Sean Murphy se fait bien plaisir au niveau de ce qu'il fait de ses personnages. Il prend des risques, il prend des décisions que tu pourrais pas prendre avec une continuité classique, et il le fait pas tout le temps bien au milieu, mais vers la fin ça commence à ressembler à quelque chose et l'histoire prend vraiment forme et trouve un message qui est intéressant, quoi. Et c'est bien dessiné forcément, hein, parce que c'est Sean Murphy. Et que quand il décide de faire une course-poursuite, eh ben, parce que c'est un peu, peut-être le prétexte de tout le comics, c'est de pouvoir.
Il y en a deux par numéro, non?
Ouais, non.
Les courses-poursuites.
C'est le mec, c'est tout ce qu'il voulait faire, c'est une course-poursuite entre plusieurs bottes mobiles, tu vois.
Bah, il les a toutes sorties, ouais, c'est fait.
Voilà. Et ben, du coup, c'était très bien, c'était le meilleur moment. Alors, du coup, c'est vrai que, comparé à ce qu'on nous avait vendu, c'était moins bien que prévu. Mais au moins, ça a pris des risques. C'est joli, c'est pas inintéressant, quoi. C'est même plutôt intéressant de changer les rôles entre le Joker et Batman. Et en plus, ça reprend un petit peu l'univers de Batman Taz, et c'est mon grand Morrison à moi, ça. Donc pour moi, c'est cool.
Nightwing, est-ce que tu l'as lu Est-ce que tu as lu l'intégralité de White Knight?
Ouais. Okay. Et un peu comme Sledgy, c'est bien. Mais j'ai été quand même déçu parce que je m'attendais à quelque chose de plus... Enfin, qu'il aille plus loin, en fait. Et au début, il nous vend bien, hein, ça commence vachement bien. Et je trouve qu'en fait, bah, il l'abandonne en cours de route, en fait. Je trouve qu'il y a plein d'idées qui ne sont pas suffisamment développées. Au départ, il fait agir Jack Napier, du coup, vu qu'il est guéri en nouveau donc Chevalier Blanc. Et il s'arrête tout d'un coup pour faire Bah, pour devenir en fait un criminel, finalement il agit comme un criminel. Alors que j'aurais trouvé ça plus intéressant s'il avait joué la carte du mec droit jusqu'au bout. Et en fait, enfin, je sais pas, je trouve qu'il tout ce qui aurait pu être très très intéressant, eh ben, c'est un peu abandonné et j'ai été déçu par ça. Et comme c'est un truc qui a été vendu comme comme c'est hors continuité, un truc plus dark et plus. Et plus, ouais, plus différent de ce qu'on peut lire en règle générale sur Batman, ben finalement, j'ai pas trouvé ça si bah, exceptionnel que ça et si différent.
On voit pas le dark.
Ouais, voilà. Et c'est là que j'ai été un peu déçu.
Ouais, mais en fait, d'après ce que tu dis, parce que j'ai pas lu l'intégralité de White Knight, et je partage un peu ton avis de ce que j'ai lu, je sais plus où j'en étais, où je me suis arrêté, mais c'est que Sean Murphy se serait un peu trop arrêté à l'idée d'une opposition frontale entre le Joker et Batman, où en fait, si le Joker devient gentil, Batman doit devenir méchant.
Mais oui, c'est ça en fait. Sur le début, c'est ça en fait.
Donc vas-y, Zepli,
Bah, je trouve que
ton avis par
le
rapport à
problème, c'est
ça.
que il est sur une soi-disant inversion des valeurs en disant ah là là, Joker il devient Jack Napier, il devient gentil, ça devient la face de Gotham et tout. Et puis Batman, lui, oh là là, d'un coup, on se rend compte qu'il met des coups de poing dans les mecs et que ça les fait saigner quoi. Ça me pose un problème en fait. Le postulat de départ, quand tu vois que l'opinion publique elle se retourne en disant oh là là, Batman, regardez comme il met des coups de poing au mec, après il perd des dents. Oh, qu'est-ce qu'il est méchant! Non, ça tient pas. Tu vois, déjà le premier numéro pour moi il était pas terrible. Et ça s'empire de numéro en numéro. Je m'ennuie sec. Je te dis le truc. J'avais l'impression que je devais me coltiner le numéro mensuel plus ou moins. D'ailleurs, ce qui me semble que c'était un peu chaotique comme publication de White Knight pour me dire est-ce que ça va amener à quelque chose. Et en fait, plus ça avance, plus ça devient classique. Alors autant le début était à demi risqué, comme je le dis, parce que j'adhérais pas spécialement au concept. Parce que, comme je te dis, le Batman qui est censé être violent et torturé et dark, on avait bien mieux à l'époque de Frank Miller, tu vois. Et là, tu te dis, bon, bah écoute, ça va, gamin, mais t'es en train de faire du faux dark, t'es en train de t'adresser à un public de gamins de 14 ans, et dans une ligne qui est soi-disant dark, maintenant le Black Label et tout, qui sont en train de sortir ça, genre, ah oh là là, attention les mecs, c'est un truc vraiment sombre. Ouais, non, pas du tout, j'ai pas trouvé
Ouais,
ça,
c'est
c'est pas.
ça.
Et à côté de ça, le dessin de Sean Murphy, autant je l'aimais bien auparavant, là c'est de plus en plus informatisé en fait. Tu sens que le mec utilise de plus en plus des assets qui sont préenregistrés sur son PC. Les décors, ils sont d'une froideur pas possible. Heureusement que les personnages, ils continuent d'être relativement bien faits, crayonnés. J'imagine qu'il n'y a pas trop trop de 3D là-dessus, mais les véhicules, les bâtiments, c'est. Tu vois. Je trouve que ce mec-là, il avait atteint peut-être son niveau maximum avec Punk Rock Jesus, qui avait d'ailleurs aussi un peu de CG dans le dessin, mais je fais une allergie à la CG, que ce soit dans les dessins ou que ce soit dans les films. Faut savoir. Mais. Voilà, je trouve que c'est un peu un pétard mouillé, White Knight. Tu vois,
Ouais.
je dirais pas que c'est nul. Je pense que c'est plutôt pas mal. Dans l'ensemble, c'est un truc intéressant. Mais c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un truc dont on va pas en parler dans 15 ans en disant, te rappeler, White Knight, c'était super bien. Non, c'est un produit comme un autre, dans une gamme un petit peu différente de ce que tu as l'habitude de voir chez DC. Mais tu te dis que voilà, ce qui est subversif en 2017-2018, ça l'aurait pas été dans les années 80. Et c'est un peu un triste constat de voir ça dans les comics actuels.
On a fait le tour, si à moins que Harley veuille bien prendre la parole pour finir, non?
Non, 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 moi,
Non,
je
tu veux plus
suis
en
un...
parler? T'as fait une overdose?
Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je suis d'accord sur le fait que je m'attendais à ce que, comme ça, parce que ce soit plus noir que ce que ce n'est là. Et je suis aussi d'accord avec Alex sur le côté Batman-tas qui me plaît. Et sur la relation aussi, on peut le dire clairement, entre le Joker et Harley. Donc, il y a des trucs qui m'ont plu, des trucs qui m'ont pas plu. Et c'est vrai que j'aurais aimé voir une version, je sais pas si on peut dire 100% Sean Murphy, mais sans aucune censure du tout. Vraiment un truc qui fait lui du début à la fin, sans parler du Black Label, dessin ou quoi que ce
C'est pas de
soit.
la
Mais
grosse censure à mon avis.
non, mais je pense quand même que sur ces idées, il y a eu des trucs qui ont été un petit peu en
Entravé.
retenue. Ouais. Et justement, tu parlais de Punk Rock Jesus, où là, on voit que le type, il est allé au bout de ses idées, quoi. C'est hyper dérangeant. Et là, on sent qu'il a voulu faire un truc un peu pareil, mais je sais pas si c'est parce que c'était l'univers de Batman, il a pas trop osé y toucher ou quoi, mais on sent qu'il y a des moments où il se met tout seul des barrières, et j'aurais aimé le voir sans aucune limite. Et c'est dommage, c'est... Mais après, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé
White
Knight.
Il est en train de devenir Sean Murphy, quoi. Tu vois, genre, c'est un mec qui est un peu sur la retenue et qui essaie juste de vendre ses pages 4500 balles sur le Comic Code, donc on va le laisser.
Non, mais
on
de toute façon, Sean Murphy, maintenant, il faut pas oublier qu'il va dessiner un Batman qui se balade avec la tête parlante du Joker à sa ceinture dans le désert.
C'est plus lui, maintenant.
Par Scott Snyder.
Non, mais... Lui, c'est Capullo, maintenant.
Ah, ça rechange. Ah oui, c'est vrai, ça a rechangé.
Ouais, bah, parce que maintenant, que il veut plus travailler avec des auteurs qui ne sont pas lui-même.
C'est vrai, j'avais...
Ah d'accord, Scott Snyder et Capullo, quoi.
C'est vrai. Ouais. Mais ouais, non, j'aurais
le
aimé...
Le duo de l'enfer.
Le duo du Hellfest. J'aurais aimé retrouver sans aucune retenue. Et cette histoire avec le Black Label m'a beaucoup énervée sur le fait qu'il y aura toujours une censure. Parce que je me disais, enfin, on va avoir des comics authentiques et en fait, que dalle, quoi. Il y a un moment où faut arrêter, quoi. Tu montes des nanas à poil sur des écrans, mais tu montes juste une paire de loches dans un comics, ça y est, tout le monde s'affole parce que personne n'en a jamais vu dans sa vie. Il y a un moment où faut arrêter, quoi. Sortent les doigts, quoi.
On aura une version non censurée quand ce sera le énième anniversaire de Batman, t'inquiète.
Sortez la Snyder Cut de White Knight, s'il vous plaît.
Non, mais c'est vrai, enfin, je vais diverger un peu, mais voilà, quand j'ai allaité ma fille, c'était pareil, quoi. Les gens, ils te regardent genre, oh mon dieu, un singe, ouais, qu'est-ce que c'est?
C'est encore pire parce que c'est pour les Américains, là. Il n'y a pas plus hypocrite que pour ça.
Ouais, non, mais c'est ça. Là, c'est... Ils ont la culture du cul, mais pourtant, dès que tu vois un petit bout de fesse ou un petit bout de sein, ça y est, tu te sens plus, quoi.
Enfin, tu mets pas des personnages à poule dans les comics, attention, oh là là, oh.
Non, mais
oh.
Surtout que la planche n'a absolument rien de vulgaire. Elle est naturelle, c'est pas des poses exagérées ni rien. La poitrine, elle est pas grosse. Mais non, on met des petites bulles dessus, parce qu'au cas où...
On a vu des planches plus vulgaires avec des gens beaucoup plus habillés, quoi.
Oui. Mais on va pas revenir sur les covers de Catwoman.
je pense qu'en ayant fait le tour de White Knight, on peut clore le podcast. Après avoir remercié notre invité Nightwing...
Bah, merci, c'est toujours un plaisir.
Et salut à la demande notre rédactrice en chef Harley.
Salut, merci de l'avoir souligné, merci.
Je t'avais dit que j'allais le faire.
Oui, parce que ceux qui ne le savent pas, la dernière fois, il nous a complètement ignoré hein, pour le podcast news.
Donc merci à tous d'avoir été là pour le podcast, et on peut vous dire au revoir aux auditeurs et à une prochaine fois pour un podcast, certainement un news. Bonjour. Ou alors peut-être un débat. Non mais on sait pas, on n'est pas au feeling, on fait tout au feeling.
On en a plein sous le coude, mais on sait pas.
On ne sait pas lequel choisir.
Vous voulez qu'on débatte d'un sujet bien précis en podcast talk ou de news particulières ou faire des reviews particulières, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux.
Oui,
hashtag
DC
Podcasters.
Non mais du coup, je m'en fais penser à un truc, parce que j'oublie maintenant de signaler, mais vous pouvez toujours participer au podcast en le notifiant en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Normalement, en théorie, on regarde, donc ça devrait pas nous passer en dessous ou sous le nez, ou envoyer un message privé via le forum aux membres du staff, qui sauront le faire remonter. Donc on peut saluer les auditeurs et leur dire à la prochaine.
À la prochaine.
À plus.